ACR, Atelier de création radiophonique. Le hérisson et le porc-épic, aux sources du théâtre en Afrique de l'Ouest. Par Nicolas Roméas. Sotigui Kouyaté, Amadou Bourou, Koulsi Lamko, Jean-Pierre Guingané, Amadou Chahab, Philippe Daucher, Broulaï Diarwara, Sétiki Koulibaly, Monique Ilboudo. Amadou Empateba, Sonny Laboutansi. Groupe de réalisation, Pierre Mine, Julien Douminc, Clotilde Pivin. Le hérisson et le porc-épic, aux sources du théâtre en Afrique de l'Ouest. Par Nicolas Roméas.
C'est toute la grande question aujourd'hui. Pourquoi fait-on du théâtre? Quels sont ceux qui font du théâtre? Pour qui fait-on du théâtre? Et les gens viennent au théâtre pourquoi? Est-ce qu'ils viennent pour passer du temps parce qu'ils s'ennuient? Où ils viennent pour simplement, ils espèrent rencontrer, ça devient un rituel, donc un fantasme, ou ils y vont parce que tout simplement, il manque de divertissement, ou ils y vont parce que ils pensent qu'ils en ont besoin, parce qu'ils pensent qu'ils peuvent ou pourront apprendre quelque chose, ou découvrir quelque chose, ou peut-être ils pourront avoir des surprises, des étonnements. On ne sait plus. Et j'ai souvent entendu parler littéraire. Je m'excuse de cette expression parce que pour moi, toutes ces choses que j'ai souvent entendues si bellement deviennent des mots. Le théâtre est un moyen de communication universelle. Cette universalité s'est évaporée.
En remontant le courant, avant le théâtre, en Afrique ou ailleurs, à Bamako ou à Ouagadougou, ou dans notre propre passé, en remontant vers la source, avant ou après le théâtre, on trouve parfois cet espace, le cercle sacré où les hommes se réfugient pour dire aux autres qui ils sont vraiment, avec violence et avec joie, sans public, sans acteur, avant le théâtre.
Non, nous avions ce que j'appelle, moi, les représentations dramatiques traditionnelles. Ça veut dire quoi? Que à l'occasion d'un baptême, à l'occasion d'une initiation, à l'occasion d'un décès, des funérailles, etc., il y a une théâtralisation, il y a toujours une partie qui est une théâtralisation. Et c'est très bien pour nous parce que c'est extraordinaire ce que nos paysans ont comme sens du symbole. Très souvent, les gars disent non, on fait du réalisme parce qu'ils ne comprendraient pas, c'est faux. C'est nous qui ne comprenons pas. C'est nous qui sommes passés par l'école qui avons perdu cette capacité de symbolisation. Si vous voyez des funérailles, tout est symbolique. Vous voyez un gars avec deux traits blancs sur le front, ça correspond à quelque chose. Et quand on le voit, c'est ce quelque chose qu'on voit. On ne voit rien d'autre que ça. Et donc, ça veut dire qu'ils ont cette culture-là, ils sont pétris de cette culture-là, fait de symboles, d'images, de choses intéressantes. Il faut profiter de ça. Donc, avant qu'on ne leur colle le terme théâtre, je crois que c'est ça. Ce qui nous a nuit dans le développement du théâtre, c'est quoi? C'est que dans beaucoup de nos cultures, on a dit que le théâtre est un jeu. Or, un adulte ne joue pas. C'est pas bien, c'est un enfant qui joue. Et quand vous avez atteint un certain âge, vous continuez à jouer, vous êtes un débile, ou on ne vous prend pas au sérieux, ou vous êtes casté, c'est-à-dire vous êtes griot, par exemple, là, d'accord. C'est-à-dire vous n'êtes plus un être, entre guillemets, normal. Et ça nous a nuit, parce que bon, le théâtre, c'est quand même un phénomène qui est beaucoup plus généralisé maintenant. Et nous autres, à notre âge, quand on nous voit encore sur scène, les gens se disent, bon, enfin, il y en a qui jusqu'à présent se demandent ce type, on ne sait pas qu'est-ce qu'il veut, quoi. À son âge, il s'amuse avec les enfants. Ça nous ennuie, mais Dieu merci, ça évolue avec le brassage des idées et tout. Les gens commencent à comprendre que le théâtre, c'est tout un art et qu'on n'a pas besoin d'être griot pour pouvoir le pratiquer. Ou que c'est sérieux, parce qu'il y a aussi que en dehors du théâtre, nous sommes souvent des acteurs sociaux qu'ils jugent importants.
Quelle est la chose la plus grave dans la vie qui puisse arriver à un être humain? Les sages questionnés, après réflexion, ils ont trouvé que c'était la maladie. Après, ils ont dit non, c'est pas la maladie. C'était quoi donc? Ils ont réfléchi longuement, après ils disent c'est la mort. Non, après ce n'était pas la mort. C'était quoi donc? Ils ont fini par conclure que c'était l'ignorance. Là-dessus, ils étaient d'accord. Mais maintenant, il fallait chercher à savoir qui peut-on qualifier de plus ignorant dans ce monde. Et la conclusion a été que le plus ignorant dans le monde, c'est celui qui n'a jamais été au-delà de son seuil, au-delà du seuil de sa maison. Ça veut dire que c'est celui qui ne sait pas ce qui se passe chez les autres. Et donc, Brooke a marché. Il a marché en Iran, au Pakistan, en Inde, dans d'autres pays asiatiques, notamment en Afrique, au Mali, au Niger. Il s'est enrichi. Et j'ai eu la chance, en venant en France, de tomber sur quelqu'un qui, lui, s'était nourri de toutes ses expériences. Et quand je suis arrivé chez lui, puisque finalement c'est lui qui m'a fait venir en France, voilà pourquoi j'ai dit, je ne suis pas venu de mon gré en France, c'est lui qui m'a fait venir d'Afrique. Et ma première rencontre avec M. Peter Brooke au Bouffe du Nord, ça a été la chose la plus étonnante pour moi. Parce qu'en Afrique, nous avons tout le temps tout fait dans le cercle. Les maisons, les cours traditionnelles, familiales, c'est le cercle et chacun a sa petite porte. Les portes se regardent. On n'est jamais coupé en cercle. Les baptêmes, c'est toujours dans le cercle. Toutes les cérémonies, que ce soit naissance, décès, baptême, c'est toujours dans le cercle. Donc j'arrive chez M. Peter Brook. D'abord, son théâtre, c'était un théâtre circulaire. Donc déjà, j'avais mes repères. Ensuite, première réunion où il y avait une quarantaine de personnes, on était assis dans le cercle où tout le monde se voyait. Deuxième bonne surprise. Et après mes premiers 3 jours de contact avec M. Brook, qui m'a regardé dans les yeux, qui m'a dit, ben, maintenant, tu fais partie de la famille. Oh, la notion de la famille en Afrique est très importante. Quelqu'un, si quelqu'un blanc te dit tu fais partie de la famille, ça veut dire qu'il a les mêmes valeurs humaines que toi. Donc, ça veut dire, voilà quelqu'un pour qui c'est l'être humain qui passe avant les autres. Et c'est ça la communication. D'où j'ai trouvé quelqu'un qui a su trouver, ou du moins pour qui d'ailleurs, les barrières n'ont jamais existé, où il n'y a pas de cloison qui sépare les êtres.
Moi, je fais du théâtre, mais quand je monte un spectacle ou quand j'écris un texte, ou j'essaie d'écrire un texte parce que je pense que mon écriture n'est même pas encore aboutie, il me vient, tout en écrivant les mots, des chants, des jeux, des mouvements, de la danse. Et je suis malade de dire ça c'est de la danse, ça c'est du théâtre. Je suis malade. Alors ça fait que moi je développe une forme de travail où il y a de la parole, il y a de la danse, il y a de la musique, il y a du jeu. Et dans les spectacles, je me rends compte que le public à ce moment-là, même quand il ne peut pas participer directement sur la scène, de là où il est, il me suit. Je crois que nous avons trouvé une manière de nous exprimer. Et c'est ça qui est essentiel. Et c'est ça que je ne veux pas abandonner. De ce fait, ça nécessite beaucoup de travail. Par exemple, des comédiens qui viennent dans la compagnie au départ ne dansent pas, ne bougent pas. Et c'est vrai qu'ils ont parfois des attitudes d'homme occidental. Bien que même aujourd'hui, un homme occidental, il y en a beaucoup qui bougent, qui dansent, qui chantent, qui crient, qui sautent, qui font de l'acrobatie. Donc, même cette référence est faussée.
Les grandes marionnettes Bambara jouent les anciens qui comptent les rites ancestraux. En bas, des comédiens vêtus de figures habitables représentent les rites eux-mêmes. Un grand dieu oiseau dansant, une emblématique femme enceinte portant un enfant sur sa tête. Je ne suis pas un spectateur, je suis debout, noyé parmi les interpellations et la musique, au milieu des enfants. Plus tard, je verrai le spectacle, à Paris, éteint. Tué par l'architecture du théâtre.
Est-ce que le théâtre, il y a du théâtre en Afrique, etc. Je crois que c'est une question de terminologie. Est-ce que le no est un théâtre? Je ne sais pas. Est-ce que le Koteba en est un? Dans le théâtre, ben, il y a la comédie, il y a la tragédie, il y a le drame, il y a plusieurs formes finalement. Je crois que dès lors qu'il y a, une expression qui sollicite le corps, la voix, des gens qui jouent, on peut parler de théâtre ou de manifestation à forte théâtralité. Hein. Et puis, non, je pense que il y avait des manifestations rituelles. où il y avait une forte communion entre ceux qui menaient le rite et puis ceux qui venaient tout autour, parce qu'il y avait une foi, il y avait quelque chose à célébrer de façon religieuse. Il y avait également des manifestations festives qui n'étaient pas du tout religieuses, qui étaient profanes, où les gens pouvaient se déguiser et puis où pouvaient faire la fête et où on pouvait jouer des rôles, tout comme dans des funérailles où on rejouait comme il était le chasseur qui est mort ou le pêcheur qui est mort, etc. Donc il y avait comme ça des manifestations où il y avait une forte théâtralité. Ce que je dis, ce ne sont que des exemples. Et puis l'Afrique est plurielle, on a tendance à globaliser et là je m'en méfie beaucoup, parce que d'ailleurs je ne parle jamais de théâtre africain, je parle des théâtres en Afrique, parce qu'il y a vraiment beaucoup de façons d'exprimer les choses. Et là, moi, je peux par exemple parler de toute cette tradition de revenants chez moi. C'était une fête rituelle de ces revenants qui portaient des masques, qui changeaient de voix, puis ils étaient badigeonnés de kaolin. Enfin, c'était pas un carnaval non plus. C'était un rituel très fort, mais où on jouait à des personnages. Et ces personnages avaient des noms. Kmurin, c'était le personnage à la grosse voix, etc.
Le côté bas, c'était le groupe humain qui se parle à lui-même. C'était, comme dit Sotigui, la théâtralisation de la vie. On y transformait en fait les événements qui rythment l'existence du village. L'utilité, c'était aussi la poésie. Aujourd'hui, il faut tenir compte des besoins, de l'urgence, et collaborer avec les ONG pour parler de problèmes sanitaires, thérapeutiques, sociaux, psychologiques. On appelle ça le théâtre utile.
Le président.
Ce qui est vraiment important et ce qui existe, dès qu'on est malade quand même, tu ne restes pas dans le village, on t'évacue à quelques kilomètres du village pour que les gens ne soient pas contaminés. Dans notre arrivée, on a fait savoir à cette population, le sida c'est comme les autres maladies, ça ne se transmet pas comme ça. Vous pouvez rester dans la même case, manger ensemble, travailler ensemble, le sida ne se transmet pas comme ça. Donc en écoutant les conseils des médecins, les modes de transmission sont très, très nets. Il y a trois sortes. Donc avec ça, partout où on a passé, la population commence à prendre conscience de cette maladie. Elle commence à réintégrer les citoyens qui sont là-bas.
Après, quand on n'avait jamais effectué de tournée dans cette zone de Sibasso. Les tournées qu'on a déjà effectuées se sont déroulées à Koumantou. Bon, mais et lorsqu'on a passé à Niena, à notre retour, le médecin nous a fait savoir que la population a vraiment la curiosité de nous revoir encore sur la scène avec les mêmes conseils. Parce que les gens, pour la première fois, ont été très très satisfaits de ce qu'on a fait.
Je ne suis jamais passé par une seule école de théâtre. Le théâtre, je suis passé par la grande école de la vie. Qui est le Côte-Bas que j'ai connu? Parce qu'on parle de Côte-Bas il y a 20 ans, le Côte-Bas national, le biennale. Je parlerai du théâtre avant le biennale. Parce que le biennale du Mali, instauré au Mali au temps de Modibo Keïta, c'est après les indépendances de 1960. Des pays de l'Afrique de l'Ouest, les anciennes colonies françaises, autrement appelées AOF, Afrique occidentale française, où le Mali n'avait pas son nom Mali, c'était Soudan français. Donc, bien avant les indépendances, avant de savoir qu'il y a quelque chose qu'on peut appeler théâtre, qu'il y a même quelque chose qu'on peut appeler des marionnettes. Et j'ai appris d'abord à connaître, à savoir que quelque chose existait qui était le Côte-Ba, qui était, entre autres, en tant que griot, il y a beaucoup de manifestations artistiques et culturelles. Ce qu'on appellerait les théâtralités de la vie. Donc, parce que je voudrais éviter des grands discours qui seraient... Est-ce qu'il existait un théâtre en Afrique avant la pénétration française, ou l'Afrique hérite le théâtre de l'Occident? Je dirais oui, quelque part, mais une certaine forme de théâtre. Elle a hérité notre patrie, cette terre-patrie, et une certaine forme de théâtre du colonisateur. Ce côté bas, quand j'étais tout petit, comme tous les garçons de mon âge, je courais dans les rues, puisque c'est dans les rues, ça s'organisait. Même pas dans les cours, où les cours africaines sont grandes. Mais c'est toujours dans un grand cercle. On bloquait un carré, tout un carré. Et le public y est, parce que tous les passants y étaient conviés. Et là, qu'est-ce qui se passait? Il y avait du côté bas. On voyait des gens danser.
Compte, compte. Je veux compter un compte. Laissez-moi me coucher sur le dos et faire pantal. Plonger dans la parole et y nager à grande brassée. J'y nagerai. Et mes pieds battant l'eau feront poutou panta. Ce que je m'en vais dire est plus merveilleux qu'un songe. Pourtant, ce ne sont pas des balivernes. C'est la langue qui fait éclater la parole. Ce n'est pas la ruse qui actionne ma langue. Elle teinte plus clairement que la cloche royale. Elle montre la route mieux qu'un guide avisé. Ma parole intéressera tous les doués d'intelligence, tous ceux qui méditent et réfléchissent. Ce conte est un conte mâle. À l'écouter, parfois, certains en attrapent la fièvre. L'art, ça, quelque part en Afrique, ça ne s'enseignait pas, ça se transmettait. Déjà, on en est là, ça c'est autre chose. Et donc le côté bas, et tout petit, c'est-à-dire, c'était à la portée de tout le monde. Des plus grands aux plus petits, chacun y trouvait
son compte.
Il y a une différence entre le théâtre et le koteba. Bon, nous inspirons sur le koteba pour travailler, pour faire le koteba thérapeutique à l'hôpital du Poingé. Là, je peux dire que nous avons eu la chance parce que le koteba, c'est notre culture bon, profane, tout le monde le sait. Bon, le théâtre, ça vient de loin, c'est le moderne. Parce que je peux dire que le théâtre, c'est pour les Français. Bon, nous faisons les deux ensemble. Bon, je peux prendre l'exemple sur deux petits animaux, le hérisson et le porte-épique. Ils sont de la même famille, mais les noms sont différents. C'est comme le koteba et le théâtre.
L'essentiel a été qu'il y a un conflit qui existe. Et ce conflit, c'est que ce jeune homme a perdu son père. Il a perdu sa mère. Donc il est à la charge de son grand frère. Depuis déjà longtemps. C'est son grand frère qui s'occupe de son éducation. De tout. Il semble ne pas être content du comportement de son grand frère et du comportement de la femme du grand frère. Bon, je crois qu'il a nourri le conflit intérieurement, jusqu'à au moment où il a eu peut-être une hallucination parce que. Lui-même, il pense que c'est une hallucination. Bien vrai qu'il a décrit les choses comme étant des faits réels. Il dit qu'il a vu un jour de bonheur quand il s'est réveillé, il est parti à la mosquée, au retour de la mosquée, il a vu un chat blanc qui courait poursuivi d'un chat noir. Et c'est de là où tout a commencé. On a essayé de faire une certaine représentation. Et je crois que vraiment, il n'a pas fait... Il n'a pas tourné sur ce plan. Il dit, j'ai vu le chat. J'ai vu autre chose. Un grand vent. Et j'ai vu mon grand frère.
Sur la colline au-dessus de Bamako, il y a un hôpital construit par les Français. Ce jour-là, dans la section psychiatrique, une troupe vient faire son opéra intime, son koteba thérapeutique. Je ne comprends pas bien de quoi il s'agit. La petite troupe entre dans la cellule où l'on fait venir un jeune garçon qui a tué sa nièce et qui est depuis considéré comme fou. Peu à peu, je comprends. À défaut de se retrouver dans le cercle du village, ils vont trouver les malades là où ils sont pour recréer le lien avec le groupe. Comme des troubadours, des aèdes, ils chantent, déclament, jouent l'histoire du village de ce garçon, de sa famille, ils l'interpellent et il répond. Le groupe refuse d'abandonner celui qui est tombé. Coincé avec mon agra dans un angle de la pièce, je me sens déplacé, tétanisé. Plus tard, je comprendrai que c'est cela que je suis venu chercher.
comme le disait notre honorable, cher et regretté empathé, bah, dans un de ses livres, où le conteur disait que mon conte pour les bambins qui se battent au clair de lune, mon conte est une histoire fantastique. Et pour les femmes fileuses de coton, pendant les longues nuits de la saison froide, mon récit est un passe-temps délectable. Mais pour les mentons velus, mon conte est une véritable révélation. Conte, je suis donc à la fois futile, utile et révélateur. Et le côté bas avait ses trois portées, parce qu'il était ouvert à un grand public. Ça passait par des danses, et subitement, la danse s'arrêtait. Et sous forme de sketch, une histoire se déroulait. Et qui correspond toujours à une critique vers la société ou vers le pouvoir. Donc ça avait toujours un sens éducatif, un sens de transmission. Ce n'était pas gratuit, ce n'était pas simplement un divertissement, ni un passe-temps pour aider les gens à passer le temps, à en même temps à faire comprendre quelque chose, à prendre conscience. Et derrière ça, il y avait de l'art. À l'époque, je voyais dans le groupe quelqu'un qu'ils appelaient débrouillé. Débrouillé, lui, c'est un personnage exceptionnel qui semble dans le groupe être le plus maladroit. Il est gauche et très maladroit. Et il fait tout à l'envers de ce que les autres font à l'endroit. Et ça faisait rire le public. Or, ce qu'il faisait comme danse, dans ces danses, c'était, il y avait toujours de la cohérence, des mouvements d'ensemble, une vraie chorégraphie. Donc déjà, la forme y était là, mais cette forme disparaissait. Et on avait la matière. Et donc, on voyait là, en même temps la beauté de cette expression corporelle dans ces mouvements d'ensemble. Et débrouillé, qui était là, qui faisait rire les gens, lui faisait exactement le contraire, le pas contraire aux autres. Et ce n'est pas facile. Et dans leur rythme, pas un rythme à lui, mais dans la même rapidité de mouvement, il y avait de l'art. Et après, la danse s'arrête, on passait à un sketch. Et des fois, ça permet au peuple de dire, ah, il voit, c'est que on sait à qui ça touche. Ça peut critiquer un quartier, ça peut critiquer le roi, ça peut critiquer la société dans son entité, ça peut aussi critiquer les mères de famille, ça peut critiquer les pères. Donc, le côté bas participait à l'évolution éducative de la population. Bon, maintenant, le côté bas d'aujourd'hui, bon, il y a un côté bas central qui, lui, est en vrai danger parce qu'il n'a jamais, il n'est jamais compris.
Pardonnez-moi si je me trompe, si j'en oublie, ou si j'en saute, ou si ma langue devient distraite. Pour tout dévideur, il faut bien qu'un jour son fil s'embrouille. Quand ses fils s'en mêlent, il les coupe et les noue à nouveau. Pardonnez si ma langue se lasse ou se ramollit.
Ayant été nommé prof de théâtre, d'abord j'avais peur d'imposer un théâtre occidental dans un pays où je sentais qu'il y avait un théâtre authentique qu'il ne fallait surtout pas dénaturer. Alors ben, il a fallu que petit à petit, si tu veux, j'aide les comédiens à devenir un petit peu des techniciens, c'est-à-dire les aider à placer un peu leur voix, à bien se servir de leur corps et surtout à maîtriser, parce qu'ici il y a un tel sens de l'improvisation qu'on n'arrive jamais à la rigueur. Alors bon, ben, j'ai eu ces élèves-là pendant 4 années, ça a duré 15 ans. Et je me suis rendu compte très vite que les élèves qu'on formait, qui au bout de 4 années d'études sortaient de l'INA avec un diplôme, n'avaient aucune possibilité de déboucher parce qu'il n'y a pas de théâtre professionnel au Mali. Tous les gens qui s'amusent, ce sont des gens de caste, les griots, qui font ça de génération, qui ont appris tout de leurs parents et qui reconstituent, si tu veux, à la fois la richesse culturelle des épopées. Bon, et puis alors, ben, me rendant compte que ces gens-là n'avaient pas débouché, on s'est dit, ben, on va former des petites équipes de théâtre utile. Alors, parce que ça permettait d'aller voir des organisations qui pouvaient financer des spectacles de théâtre d'intervention sur tous les sujets, les problèmes de santé, les problèmes d'agriculture, les problèmes d'attitude sociale, la gestion des coopératives villageoises, etc. Donc on a actuellement, je ne sais pas, peut-être 35 ou 40 spectacles différents pour aider les gens à mieux comprendre dans quel piège quelquefois ils se trouvent. Et puis ben, petit à petit, on a donc créé ces équipes et actuellement il y a 5 équipes entre 6 et 8 comédiens, c'est-à-dire 35 comédiens qui vivent de leur métier et qui font du théâtre utile et également du théâtre pour mettre en valeur le patrimoine malien.
Que signifie retourner aux sources? Est-ce que ça veut dire refaire ce qu'on faisait dans les villages il y a 40 ans et s'arrêter là? Ça y est, on a trouvé notre théâtre à nous, il nous intéresse, on le prend à bras le corps, c'est notre théâtre et c'est bon? Ou alors, avec notre esprit de théâtreux d'aujourd'hui, qui ont vu le théâtre de William Pointy, qui ont vu le théâtre d'expression française, qu'on en dise ce qu'on en veut, mais qui ont quand même vécu d'autres expériences de théâtre, des gens qui sont sortis de l'INA, parce que les mecs du groupe dramatique national à l'époque, c'est tous des gens qui ont fait l'INA, paradoxalement, et qu'on emmène dans les villages pour s'inspirer du côté bas traditionnel, et qui oublient qu'ils ont fait une école de formation où ils ont fait quand même du théâtre. C'est ça le problème. Comment voulez-vous que ce côté bas puisse marcher alors qu'ils n'ont aucune démarche, ils n'avaient aucune envie? Qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient un théâtre malien. Ils ont pris un théâtre. Bon, c'est le côté bas, ok. Bon, ressortir le côté bas, voir ce qu'il est, c'est-à-dire le regarder. Mais en même temps, l'exploitation, l'exploration qui manquait, si tu veux, au niveau du Mali, l'exploration qui manquait, c'est l'exploration qui a existé, la seule d'ailleurs qui a existé, et qui a donné naissance au théâtre utile. C'est une démarche d'exploration. La démarche de Philippe Daucher, à laquelle j'ai adhéré, moi, pendant longtemps, c'était une démarche d'exploration. Mais le théâtre utile, lui-même, qu'est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut? Par rapport à quoi il se définit comme théâtre? Philippe, il dit qu'en fait, le théâtre, son but essentiel, ici, c'est social. Peut-être le théâtre utile a un but essentiellement social. Mais c'est pas possible de dire que le théâtre, au Mali, est essentiellement social. Moi, j'ai fait des tournées avec le côté bas utile. Les enfants du village reproduisent les scènes de spectacle. Et eux, ils le reprennent très bien parce qu'ils en reprennent la fête. Ils en reprennent le côté cri, danse, fête. Les grandes personnes qui viennent voir le côté bas, le théâtre utile. Ils sont d'une politesse et d'une courtoisie extraordinaire. Ils ne vont jamais dire que ça ne les intéresse pas. Ils ne vont jamais dire que ce n'est pas bien. Ils ne vont jamais dire « Mais qu'est-ce que vous venez nous raconter ?» Mais ils ne disent rien. Chez vous, celui qui ne dit rien consent. Ici, des fois, quand on ne dit rien, ce n'est pas qu'on consent, mais c'est qu'on parle. Il faut savoir interpréter ce silence. Mais on ne te demande pas de l'interpréter, on ne te force pas à l'interpréter. Si tu ne l'interprètes pas, bon, c'est tant pis pour toi. De toutes les manières, le problème, c'est que le monde va, tout va. On fait du théâtre tout ou on n'en fait pas, la vie va.
Pas dire que nous sommes des médecins, mais réellement dit, on sait et les médecins savent ce que nous faisons. Nous avons le même sujet parce que on a eu des expériences bien définies. Bon, en réalité, chez les médecins, on fait des piqûres, des comprimés, mais chez nous, nous, les comédiens, c'est la pratique, le mot. Bon, vous-même, on le sait, la folie, bon, c'est quelque chose quand on n'est pas content. Bon, si je prends un exemple, quelqu'un qui est sous couvert, on agit sur lui. Quand je suis sur toi, par exemple, tu me commandes, tu agis comme vous voulez. Tu dis ce que tu dis, moi j'accepte tout. Mais cela ne veut pas dire que je peux tout accepter. Parce que je suis chez vous, je ne suis pas libre. Bon, tôt ou tard, je vais me révolter. Tu vas dire que je suis fou. Or que je ne suis pas fou, tu m'as trop gêné. Bon, en ces termes, toi, tu vas dire que lui, il est malade, or que je ne suis pas malade, tu me fais quelque chose qui ne me plaît pas. Je suis énervé jusqu'à l'infini. On m'amène à l'hôpital. Bon, quand on m'amène à l'hôpital en disant que je suis malade, les médecins me font des piqûres. Bon, tôt ou tard, nous, les comédiens, nous partons. On a le malade. On parle, on dialogue. Donc, il faut te dire que ce que nous faisons, il a intérêt. C'est la réalité. Il a un bon résultat.
Mon écriture est une manière de se tenir le ventre avant la tête. Comprenez, Merle, comprenez. Même si nous avons pris la honteuse manie de mettre la tête au-dessus du ventre, simplement parce que la tête est placée sur le ventre. Vous voyez la connerie ? Quand même l'on sait que dans la pratique de l'existence, c'est les couilles et le ventre qui bougent avant tout le reste du corps.
Nous sommes aussi une société ouverte, où nous ne sommes pas repliés sur des valeurs qui sont essentiellement à nous. Nous sommes dans une société où les choses bougent. Le côté bas est intéressant, mais le côté bas, c'est dans une région donnée. Dans la région qui est la mienne, je ne connais pas le côté bas. Comment je fais ? Si on me dit côté bas parce que ça représente quelque chose d'abouti à un moment donné de l'histoire de ce pays, et que c'est ça la référence pour l'homme de théâtre africain, je dis non, parce que ce n'est pas ma référence. C'est une expérience que j'enregistre dans ma vie et qui me rend fier. Mais je me dis, mais alors moi, mes références sont où? Si moi je fais du compte, parce que c'est une référence pour moi. Et alors je cherche comment je peux travailler pour m'exprimer de manière artistique.
C'est vrai qu'ici, on veut que l'art soit utilitaire parce que il y a des besoins urgents, des besoins de développement. Donc, on veut que ça serve à quelque chose. Et quelquefois, c'est un frein, je pense, parce que c'est vrai qu'il faut quand même voir la littéralité des textes et pas seulement leur, disons, les thèmes et leur but utilitaire. Mais on ne peut pas nier que dans la situation actuelle, chacun de nous, que on soit donc homme de théâtre, de littérature, journaliste, qu'il y ait des problèmes tellement cruciaux que chacun de nous doit s'engager nécessairement. Donc, je pense qu'il faut trouver le juste milieu. Est-ce que notre théâtre actuel a trouvé ce juste milieu? Je ne pense pas, puisque c'est encore une recherche. Et que chacune des troupes essaye de trouver une voie par laquelle elle peut à la fois donc exprimer certains thèmes, certaines idées fortes, et puis être aussi, avoir aussi un but ludique de donc amuser les gens. Le théâtre ici, je pense, est utilisé comme moyen de communication sociale. Et c'est nécessaire pour le développement parce que le développement exige des changements de comportement. Et comment faire passer justement ce message-là? Le théâtre peut servir à cela, surtout s'il n'oublie pas aussi son but ludique, parce que si les gens ne s'amusent pas, ils ne reviendront pas.
Vous qui m'écoutez, je voudrais vous demander de transmettre mes salutations et toute ma reconnaissance à tous ceux qui m'ont permis de devenir la chanteuse que je suis.
La grande question pour nous autres Africains, c'est quoi? C'est qu'il y a actuellement un certain universalisme, comme on dit, une culture qui se veut universelle, qui n'est peut-être pas notre culture ou qui n'est pas l'expression de notre culture. Mais nous, une troupe burkinabé qui voudrait par exemple aller jouer à Paris, qui voudrait aller jouer à Londres, etc., qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Il faut qu'elle réponde aussi à certains critères. Donc c'est pourquoi les troupes quelquefois sont tentées de faire un théâtre, disons, standardisé.
L'Afrique a tout le temps été en mouvement. Ce n'est pas seulement maintenant que le mouvement commence. Simplement, l'Afrique doit persévérer. Prendre de plus en plus conscience que ses valeurs réelles, qui lui sont propres et proches, ne sont pas des plus mauvaises. Et que son rôle, c'est de les faire connaître parce que, même si on les connaît, ces valeurs sont méconnues, comme l'Africain lui-même est méconnu. Nous sommes des connus méconnus. Et là-dessus, nous avons à faire connaître. Et c'est de cela, nous ne devons pas avoir peur de ça. Nous ne devons pas avoir peur de nous montrer comme nous sommes. Et d'apprendre aussi à des peuples à nous découvrir et à apprendre que ces peuples apprennent à nous voir avec d'autres yeux qui les amèneront aussi à nous accepter.
Mais justement, ce qui est douloureux, là, c'est notre situation d'artiste aujourd'hui. Nous sommes au carrefour des mutations. La question qui se pose pour nous en Afrique, c'est est-ce que nous serons une génération de gens aux mains tendues? Ou est-ce que nous serons une génération de gens, disons, des sortes de coupeurs de tête en embuscade? Ou est-ce que nous serons des gens qui se diront « c'est violent à moi, cette violence m'aide ». Je crois que c'est la question qui nous est posée. Et donc à travers les textes, à travers ce que les gens, les uns et les autres se disent, ce qui est essentiel, c'est ce mouvement de vouloir dire. Et ce mouvement est important. Et de là-dessus, on rejoint le griot.
Quand on dit les castes au Mali, il ne faut pas entendre le Mali simplement par le Mali actuel qui avant était le Soudan français. Il faut entendre le Mali par l'Empire Mandingue, qui lui regroupait une grande partie de l'Afrique de l'Ouest. Bon. Et là, il y avait les gens des castes, c'était des gens qui avaient un métier. Par exemple, le cordonnier était un homme des castes. Le forgeron, un homme des castes, le puisatier, tous ceux qui avaient un métier. Donc, le cordonnier, il vivait de sa cordonnerie. Et le forgeron, de sa forge. Il faisait ses outils, il les vendait. Et matériellement, il avait des changes possibles. Et le griot, lui, dont son travail, c'était la parole, parce qu'il avait la mission de transmettre l'histoire des générations. En génération, l'écriture n'existait pas. Et aussi, de permettre au peuple de connaître son existence, ses origines. Ils sont des généalogistes. Bon, et c'est pas tout. En plus, les réconciliateurs entre les peuples, les familles et les maîtres des cérémonies. Et comme tout ça, ce n'était pas matériel, c'est la parole, donc... Et ils n'avaient pas un échange de leur... Bon, et ils ne pouvaient, à ce titre, que vivre ce qu'ils obtenaient des personnes auxquelles ils dispensaient leur savoir.